Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, renommée depuis quelques épisodes déjà Le Comptoir du Festival. Et nous sommes d'ailleurs en ce moment même assis à Cannes sur une plage au bout de la Croisette après toute...
Une plage publique.
Une plage publique.
Il faut le dire parce que là, on a fait peut-être un kilomètre entier hein, recouvert où les plages sont... non seulement privatisé à l'année par les hôtels, et cette année, en plus, cette semaine, recouverte de chapiteaux, que ce soit Nespresso, la semaine de la critique, Air France, ou encore eh bien le CNC. Bref, nous sommes donc à Cannes, en ce moment, où la 79e édition du Festival International du Film a débuté depuis pile une semaine, et continuera jusqu'à samedi prochain. Nous sommes aujourd'hui même, le mardi 19 mai 2026. Et oui, on est le 19 mai 2026, quelques réveils ont été manqués. On a réussi à avoir un gala hier. On a enregistré tout à l'heure sur la plage privée du CNC. Et la caféine de la terrasse des journalistes nous sauve autant qu'elle se marie un peu mal avec le soleil qui commence à bien taper quand même sur la Croisette. Enfin bref, c'est parti pour ce nouvel épisode. Avant même d'entrer dans les débats... Petit mot de prévention introductive, vous l'aurez vu au titre de cet épisode, on va traiter aujourd'hui de questions particulièrement dures et violentes en évoquant deux films de la sélection officielle, l'un en compétition et l'autre dans la sélection Un certain regard. Il s'agit respectivement de Gentle Monster de Marie Kreutzer et de Mémoire de fille de Judith Godrèche d'après le récit d'Annie Ernaux. Ces deux films traitent de violences sexuelles et Gentle Monster aborde plus précisément encore la question de la pédopornographie. Il nous faut donc de ce fait vous prévenir qu'il sera inévitable de parler assez directement de ces sujets dans l'émission. Gentle Monster, que nous avons vu en séance presse après 3 heures de queue pour en louper la présentation en gala dans le Grand Théâtre Lumière, la file s'étant arrêtée pile devant nous, et nos pieds s'en souviennent encore. Gentle Monster est le nouveau film de l'Autrichienne, ça a son importance. Marie Kreutzer, présente pour la première fois en compétition à Cannes, et qui réunit à l'écran Léa Seydoux et l'acteur allemand Lawrence Rupp, qui incarne un couple franco-allemand, donc où elle est une chanteuse qui a son succès, mais qui est quand même un succès assez confidentiel, hein, j'ai l'impression. Et lui est un cinéaste expérimental un peu au chômage et en panne d'inspi, qui tourne notamment en 16 mm. Encore des artistes, donc, soit dit en passant, et on va beaucoup en recroiser hein, dans les films de cette compétition. Et ce couple d'artistes-là, eh bien, il s'est installé dans une maison dans la campagne bavaroise pour tenter de prendre un nouveau départ, dont on comprend peu à peu le sens au fil du film, avec leur fils, et ce départ, ils veulent le prendre avec leur fils Johnny, qui est âgé d'une petite dizaine d'années. Le couple et même la famille s'aiment, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Hein, et s'il y en avait, un bref prologue les montre très heureux, très unis, très, très, très rigolards. Bref, les doutes sont levés là-dessus au début. Mais voilà, par un beau matin, eh bien, la police frappe à la porte du domicile de Lucie et Philippe. Et cette scène, déjà, en elle-même, elle est très puissante. Hein, menée par une officière de police venue de Munich, une équipe envahit le domicile qui, de lieu de tendresse familiale, devient soudainement très inquiétant. Les visages sont filmés de très près dans une suite de plans-séquences qui traversent une à une les pièces de la maison. Et à cet instant, le spectateur, la spectatrice, est mis franchement mal à l'aise, autant par cette tension dans la mise en scène que par le calme affiché par l'ensemble des personnages que l'on voit dans un premier temps, soit en gros celui de la flic qui mène l'enquête et celui de Philippe. Philippe qui d'ailleurs conduit les policiers à ce à qui lui demande, c'est-à-dire son ordinateur et ses disques durs. Dans ce régime de sous-connaissance, on est à ce moment-là plus avec Léa Seydoux, qui panique absolument face à la passivité de son époux et dans son ignorance de ce qu'il se passe. Elle découvre assez vite que Philippe est accusé de stockage et de diffusion d'images pédopornographiques et tout s'effondre autour d'elle. Elle confie Johnny à sa mère, incarnée par Catherine Deneuve, hein, l'un des paternes de ce festival, étant apparemment la double apparition de plusieurs actrices dans plusieurs films de la compétition. Et Léa Seydoux, donc, enfin Lucy, mène moins une enquête qu'elle n'essaye de comprendre ou de retracer, de relire dans sa tête les souvenirs qu'elle a avec son époux, avec son fils, surtout pour essayer de savoir, de répondre à cette principale inconnue. Philippe a-t-il été producteur de ce genre de contenu immonde et a-t-il de ce fait agressé Johnny ? Cette tension très malsaine et très gênante est le principe même narratif du film, qui a été le premier du festival à provoquer chez moi en sortant une vive réaction de rejet, qui s'est un petit peu atténuée depuis, notamment parce qu'en fait je trouve que le film n'est pas très mémorable et que je l'ai en grande partie oublié, noyé derrière tous les autres films qu'on a vus depuis. Et je trouve effectivement que le traitement du sujet n'est pas à la hauteur des enjeux, qu'il est trop incertain quant à son propre discours et qu'il se perd trop volontiers dans des intrigues ou des arcs narratifs parallèles inutiles et empêchant de s'attacher vraiment à Lucy, avec laquelle, en dehors de deux scènes, dont cette fameuse première scène, eh bien, j'ai jamais réussi trop à accrocher. Le film affecte une froideur très pénible et bien trop en déphasage avec le personnage principal qui aurait mérité un minimum d'empathie. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que c'est différent pour vous ? Claire, je te tends le micro.
Oui, je crois que c'est un petit peu différent. Je crois avoir plus apprécié le film que toi, si je dis pas de bêtises. Là, je rebondis tout de suite sur le dernier mot que t'as employé, parce que bah, c'est le dernier mot que t'as employé, mais la froideur, je suis pas sûre, moi, de l'avoir tant que ça ressenti. En fait, ce que je regrette du film, c'est qu'il ait pas pris... qu'il ait pas fait de choix. Et que ce non-choix ne soit pas non plus un choix. Enfin, en fait... Tu l'as plus ou moins dit, mais il oscille énormément, je trouve, en termes de point de vue. Alors même qu'on suit principalement donc, ce personnage principal qui est assez doux. Et je comprends pas pourquoi. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a voulu autant se détacher de ce personnage de la mère qui est quand même le plus intéressant, parce que le plus développé. Et parce que c'est à ce niveau-là que se crée toute la tension... d'une mère qui veut justement protéger son enfant mais qui sait pas à quel point, enfin quelle est la chose pour le protéger justement. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un film intéressant à plusieurs égards. Il est assez beau, je trouve, en termes d'image. Les personnages, enfin moi j'ai bien aimé le jeu de Léa Seydoux par exemple. Le jeu du père aussi était franchement pas mal. On le suit moins donc c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà, donc c'est un peu mitigé, un peu disons content d'avoir découvert ce film. Est-ce que je retournerai le voir? Probablement pas. Je pense qu'il y a d'autres films qui sont bien meilleurs sur le sujet, enfin en tout cas sur des sujets plus ou moins similaires, je pense.
En vrai, je suis un peu d'un avis similaire, dans le sens où je suis mitigé aussi, mais mitigé positif en vrai. Dans le sens où... en fait, je trouve que c'est un film qui est très très casse-gueule à de nombreux points de vue sur son sujet. En vrai, ça paraît évident. Et qui est très imparfait parce qu'en fait, il tente beaucoup de choses. Il prend pas mal de risques et il se casse la gueule, du coup, logiquement, à pas mal d'endroits. Mais quand il réussit ce qu'il entreprend, je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc voilà, notamment en fait dans les, ce qu'on pourrait appeler les, je sais pas si j'ai envie de dire les défauts du film, mais les choix questionnables qu'il peut faire, il y a l'utilisation de la musique, que voilà, parfois qui pose question, on y reviendra sans doute, quelques longueurs, petits problèmes de rythme, des questions d'écriture, non pas forcément, en fait l'écriture je trouve que c'est aussi le point fort du film, mais disons qu'il y a des scènes dont je comprends pas trop l'intérêt, ou je comprends pas trop pourquoi elles sont là, pourquoi sont aussi longues aussi. Et enfin, comme tu l'as dit Claire, le personnage de la flic, dont on a du mal en fait à comprendre la place dans l'écosystème du film, parce qu'elle a une importance indéniable. On entre un peu dans son quotidien, etc. Mais en même temps, on reste toujours un peu en dehors. Est-ce que c'est parce qu'en fait, il manque 20 minutes, une demi-heure au film de développement là-dessus, peut-être, ou est-ce que c'est juste que la réal savait pas trop quoi faire, enfin, on va savoir. Mais toujours est-il que voilà, ça c'est plutôt en gros, je trouve, les défauts du film. Alors qu'à côté, en fait, c'est vraie qualité. On l'a dit, son casting, Léa Seydoux est vraiment vraiment très très bonne. Enfin, il y a quelques répliques qui passent pas très bien, mais dans l'ensemble, c'est très fort, je trouve. Lauren Swap aussi. La flic, en vrai, même si elle est un peu moins en lumière, elle tient vraiment le niveau.
Je la trouve même mieux que la Cédou, à titre personnel.
Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette tech. Non, mais en vrai, ça se tient. C'est ma tarte à la crème de ce festival, mais... Je trouve qu'il y a des séquences dans Gentle Monster où l'utilisation de l'espace et cette fois de façon inquiétante, enfin de façon à créer le malaise en fait, est très 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 forte. Et le film a pas trop de pareil dans cette sélection jusque là sur ce point très précis. Donc ça c'est assez chouette. Et enfin vraie qualité de l'écriture, le choix des points de vue. On pourra aussi y revenir, mais je trouve que le choix du point de vue de Léa Seydoux est un choix non seulement bon et efficace, mais juste surtout dans le traitement du sujet. Donc voilà, moi en fait, je trouve que c'est très imparfait, mais que du coup ça permet des fulgurances qui sont assez géniales. Et en vrai de vrai, je crois que j'ai vraiment bien aimé le film.
Merci beaucoup à tous les deux. On pourra revenir sur la question des points de vue, parce que pour le coup, moi c'est un des problèmes que j'ai avec ce film, c'est qu'il n'arrive pas à s'en garder un, se tenir un. C'est un peu ce qu'on a déjà évoqué là, toi et moi Claire, à l'instant. J'aurais bien aimé qu'il reste spécifiquement avec Léa Seydoux pour qu'on puisse ressentir un minimum d'émotion. Parce que pour le coup, moi j'ai quasiment jamais été ému par le film. Ça tient aussi au jeu de Léa Seydoux avec lequel, en règle générale, j'ai du mal. On verra à un autre moment dans ces épisodes du festival que je vais revenir sur cet avis-là, mais pour l'instant, surtout dans Gentle Monster, je la trouve vraiment pas très très convaincante, en dehors d'une scène donc qu'elle a avec Catherine Deneuve, sa mère, dans un parc pour enfants, où en gros, Léa Seydoux, Lucie, fait enfin l'aveu à sa mère de la crise qu'elle traverse dans son couple. Et c'est assez fort, parce que dans ce lieu qui est supposément privilégié de l'innocence enfantine, du jeu dans un espace public, vraiment d'espace réservé aux enfants, dans un souffle... Dans quelques secondes, enfin en une seconde quasiment, Léa Seydoux dit à Catherine Deneuve « c'est un pédophile » très très rapidement, très très bassement, et je trouve que la réaction de Catherine Deneuve marche très très bien. Cette scène, il y a une excellente dynamique entre les actrices, j'ai trouvé dans tout le film, qui est un peu desservi par des dialogues pas terribles dès qu'on est spécifiquement en français, à mon sens. En tout cas, autant je trouve qu'il marche bien. On croit à la relation mère-fille entre Seydoux et Deneuve, mais moins par les dialogues que par ce qui se passe dans le non-dit, dans un moment de tendresse où elle pose sa tête, sur les genoux de sa mère, etc. etc. Donc voilà, moi c'est... aussi un des problèmes du film, c'est que il m'a vraiment pas ému du tout. Et même si c'est, enfin, j'aurais pas non plus aimé l'extrême inverse du tire-larme, qui est possible aussi sur ce genre de film. Là, on est dans une distance qui me gêne profondément.
C'est rigolo parce que pour le coup, là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Surtout pour toute la première partie du film, je trouvais, enfin, avant que les flics en fait débarquent et que les problèmes commencent. Enfin, les problèmes, de manière déclarée, disons. Je trouve, au contraire, que c'est une famille qui est très tendre et qui est très joliment dessinée. Enfin, en fait, qui est... comment dire ? Je trouve que c'est une famille qui est très juste et qui est prise avec toutes ses qualités, tous ses défauts. C'est-à-dire que c'est des parents qui sont absolument pas parfaits dès le début et ils sont assumés comme tels par le film. Le gosse est mignon, mais c'est pas le sujet. Enfin voilà, il est là, mais on le voit pas tant que ça finalement à l'écran. Enfin du moins, on le voit toujours un peu dans le fond. Il est là parce que mine de rien, c'est le cœur du sujet, mais il a pas la parole ou que très très peu. Et je trouve que toute cette première partie est hyper importante justement pour construire cette émotion qu'on aura. Enfin que finalement du coup j'ai ressenti plutôt au début qu'à la fin. Et ça va avec ce que tu disais, Aubry, sur la façon de filmer la maison. C'est qu'en fait, toute cette première partie... En fait, je crois que c'est vraiment la première partie du film qui m'a le plus intéressée. Parce qu'il y avait toujours cette façon de filmer donc cette famille de manière très tendre et de manière sincère, je pense, vis-à-vis de la famille. Et en même temps, on avait de l'autre côté cette ambiance glaçante où tu sens que ça va arriver, en fait, et que tu sais pas quand, mais que ça arrivera. Et ça, je trouvais ça très, très bien réussi.
Complètement d'accord, et on pourra revenir sur toute l'importance de cet espace de la maison, notamment parce que, pareil, je trouve qu'en fait, haute tarte à la crème du festival, mais on a encore le cadre de personnages d'artistes très bourgeois et tout. Et.
enfin il y a vraiment ce côté d'artiste bohème en plus qui n'est pas présent trop ailleurs, mais dans le nouveau départ il couche sur un matelas même le sol, t'as ce truc on va aller à la campagne quasiment néo-ruraux, etc donc qui redouble encore plus le risque caricatural que je trouve il n'y a pas dans le personnage. Pardon.
Mais enfin voilà, il y a ça et en fait je trouve que justement le fait d'utiliser la maison comme un espace vide qui devient malsain, ou en gros encore une fois tous les signes de la familiarité domestique sont pervertis, c'est-à-dire que le bureau, la chambre, la maison de vacances, la maison de campagne qui est normalement cette espèce de lieu d'intimité, de sécurité pour la famille, et ce qu'on voit au début dans ce que tu mentionnes Claire, et ben en fait d'un coup quand elle est vide, enfin vidée par Léa Seydoux qui en fait déménage tout dès qu'elle apprend ce dont est suspecté son mari, en fait ça fait que cet espace il devient immédiatement malsain, et là les cadres de Marie Kreutzer sont je trouve glaçants, c'est-à-dire que c'est vraiment des images, des espèces d'images communes, enfin qu'on a un peu tous déjà vu, et où juste un espace est étrangement vide, il y a un truc qui cloche, on saurait pas trop dire quoi, et c'est ultra dérangeant. Et ça va un peu en fait avec la toute première scène du film aussi, enfin je veux dire la descente de police qui paraît trouver très bien faite, parce qu'au fait au début si on sait vraiment pas de quoi parle le film, c'est presque la descente de police en elle-même qui est menaçante et inquiétante, et en fait dès qu'il commence à saisir effectivement les ordinateurs et qu'on commence à comprendre ce qui se passe, bah tout d'un coup en fait c'est plus la descente de police qui est inquiétante, mais c'est directement la maison et ce mec qui a une tête de papa lambda un peu gaffeur et presque attachant en fait, et là le film je trouve devient terrifiant parce que il travaille ces espèces de subversions de signes familiers voire aimables ou mignons dans certains cas, et il en fait des choses absolument terrifiantes, donc ouais.
J'entends ce que tu dis, et effectivement j'aime beaucoup moi la fin et les cadres vides de la toute fin quand Lucie, pour le coup sans trop spoiler, mais Lucie juste revient dans leur maison et que c'est tout à fait vidé cette fois-ci, les murs deviennent gris alors qu'il y avait la lumière très chaleureuse des scènes du début que t'évoquais Claire, et qui voilà, donne cette tendresse qui moi ne m'a pas touché et en dehors de laquelle je suis resté, mais t'as tout à fait raison, il y a une caractérisation comme ça de la famille en famille heureuse. Bon, moi elle m'a plus saoulé qu'autre chose. Pour parler de l'écriture du film lui-même, moi c'est ça aussi mon principal problème avec le film, c'est que tout du long on a une longueur d'avance en fait sur le personnage de Lucie, pas au début dans la scène de descente de police que je trouve vraiment brillante comme on a évoqué tout à l'heure, mais dès lors que le film se dit je vais donner le point de vue de ce qui se passe au commissariat, eh bien on voit en fait qu'il y a eu, et on le voit assez tôt dans le film, on voit qu'il y a une vidéo de Johnny tout nu en train de courir vers le trampoline qui a été filmée et qui est dans les dossiers, et donc c'est cette longueur d'avance qu'on a sur les assez douce, je la trouve vraiment gênante parce que t'as l'impression que le film prend un plaisir quasiment malsain à la filmer, à se demander non pas si mais enfin, si ça a eu lieu, mais quand est-ce qu'elle va apprendre que ça a eu lieu ? Et moi, c'est ça qui m'empêche d'être pleinement avec Lucie, c'est que du coup, on a cet avantage intellectuel, entre guillemets, sur elle, sur le personnage, et on a plus presque de la pitié qu'on ne se retrouve vraiment avec elle. Et le film, en fait, voilà, il semble à la fois vouloir casser dans l'os la dynamique d'enquête, puisque quand les passages chez les flics ne donnent pas lieu à au lieu commun de l'enquête habituelle. Enfin, on n'est pas chez Maïwenn ou chez Dominique Moll. Donc il veut vraiment casser ça, puisqu'on sait en fait qu'il est coupable au moins de la détention de ses fichiers, et en nombre bien trop grand pour en justifier la possession par les excuses qu'il sort. Et en même temps, le film il déplace la question de l'enquête de la police vers une enquête dans le cadre intime, et moi là ça me gêne beaucoup plus parce que on n'arrive pas à être avec les personnages et cette ambiguïté n'est pas du tout. Enfin, je la trouve tout à fait déplacée dans le sujet et sur le traitement du film.
Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on fait un ping-pong avec toi, Louis, mais c'est par rapport à ce que tu disais sur au début là, sur le fait qu'on a une longueur d'avance sur le personnage de Léa Seydoux. Au contraire, moi, je trouve ça assez intéressant qu'on ait cette longueur d'avance là. Parce que c'est aussi ça qui la caractérise en tant que mère, Enfin, en fait, c'est ce que je disais au début quand je trouvais que c'était le personnage de la mère qui était le plus intéressant, parce que il a beau savoir, il a pas pris tout à fait conscience, ou du moins il ne veut pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que le film essaye de nous dire. Il le fait un peu maladroitement, peut-être. Mais je trouve ça intéressant qu'il le propose et que ça soit pas seulement un choix radical et elle découvre la vidéo et à ce moment-là, bah, ça y est, elle coupe tous les ponts. Non, parce qu'en fait, à chaque fois, elle espère parce que bah, elle aime sa famille, qu'elle a foi en cette écosystème qu'ils ont créé ensemble à la campagne et qui en plus qui est tout nouveau, cette espèce de petit cocon. Le gamin, il a quoi? Il a 7 ans, même pas, enfin, un truc comme ça. Et elle espère comme ça et elle se dit, ok, bah, peut-être que c'est pas mon gosse qui est sur les vidéos. Et je sais pas, on a quand bien même on voit la vidéo chez les flics, je trouve que le film ne décide pas tout à fait tout de suite si le père est vraiment coupable, en tout cas aux yeux de la mère. Absolument pas aux yeux de la société, parce que ça c'est très rapidement mis au clair. Mais voilà, c'est juste par rapport à ce que tu disais.
Non, et puis en plus, c'est une ambiguïté qui est travaillée par le film, parce que il me semble que le personnage de Lucie le dit très explicitement. Je me demande si c'est pas à sa mère, à un moment quand elle discute toutes les deux, ou à quelqu'un d'autre, mais en gros, quand elle dit, bah en fait, c'est pas un bouton on-off en fait, genre. C'est justement, c'est ça qui est horrible et dramatique, c'est qu'en gros. Dans le film, en fait, le mal, il vient du plus proche des personnages, enfin de l'intérieur du foyer familial. Et c'est, ouais, c'est vraiment ce côté. C'est quasi cauchemardesque, en fait, ce truc du père aimant, un peu maladroit et tout, attachant, qui révèle un espèce d'ogre, en fait, sans en avoir l'apparence. Et justement, en fait, le fait qu'il en ait pas l'apparence, qu'on le voit jamais vraiment, et qu'en gros, les seules choses qu'on nous en montre, c'est des scènes d'après, on va dire, dont on devine ce qui s'est passé, en gros, qui sont pour le coup assez glaçantes. Ça fait qu'en fait, on... Bah, c'est une mécanique... Enfin, c'est con à dire, et en vrai, là, c'est peut-être débattable, mais c'est une mécanique de cinéma d'épouvante. C'est-à-dire, en fait, le monstre, on le montre pas. Ou plutôt, on n'en montre pas la vraie apparence, on le cache. Et je trouve que le film le fait bien. De là à savoir si c'est une bonne chose, j'en suis pas forcément convaincu. Je pense que ça peut se défendre dans la mesure où, un pédocriminel, en l'occurrence, c'est pas toujours un véritable ogre de la même manière que les gens responsables de violence, dont les statistiques disent que c'est le plus souvent des proches, justement, ont aussi ce visage-là du proche et. Enfin, de ce truc inattendu. Donc voilà, je trouve qu'à cet endroit, le film est... tente des trucs, en tout cas, et est sur un espèce de fil de funambule. Et je pense qu'il s'en tire vraiment pas si mal.
J'entends, et je ne suis pas d'accord dans ce que vous venez de dire. Je vois ce que tu veux dire sur la question de l'épouvante, par exemple. Je trouve que c'est un peu aller loin. Parce que il y a pas vraiment de travail du motif du conte, par exemple. Oui, c'est un ogre parce que il y a un côté d'agression d'enfant, mais c'est plus un motif très très souterrain qu'autre chose. En revanche, ce qui peut éventuellement faire signe vers ce genre de cinéma, c'est le suspense que le film prend parfois, et notamment dans une de ses dernières séquences qui est, je trouve, odieuse pour le coup. Qu'on révélera pas tout à fait, mais que le film prend le temps, un temps très lent, d'envisager le dévoilement de possibles films, pour le coup proprement pédopornographiques, qu'aurait tourné le père. Et
montage, en gros. Enfin, je disais rapidement, même si ça n'a rien à voir et que les sujets sont complètement différents, c'est un peu une affaire de morale en termes de montage, chose qu'on a pu reprocher à Spielberg dans d'autres cas, mais voilà.
Mais là, je crois que justement, c'est même le fait qu'il y ait une absence totale de montage et juste que l'écran de l'ordinateur se substitue à l'écran de la salle de cinéma et que on soit de nouveau pleinement avec elle et qu'il y ait ce stress malvenu. Et vous parliez d'ambiguïté, enfin d'ambiguïté et travaillée par le film est intéressante. Moi, je la vois pas. L'intérêt, je le vois pas plutôt l'intérêt de cette ambiguïté et non pas du tout que je n'apprécie pas les films ambigus et je trouve que par exemple un Fjord qui est un autre film de cette compétition est beaucoup plus intéressant sur le traitement de l'ambiguïté d'un modèle familial, alors pour le coup certainement pas rayonnant comme celui qui est proposé au début de Gentle Monster, mais qui révèle une forme de violence, qui révèle et qui interroge aussi notre lien, nous, en tant que spectateurs, que spectatrices, et qui nous force en tout cas à nous interroger dessus. Là, je trouve que ce film-ci déroule un petit peu trop son propos et la statistique qui le clôt, c'est-à-dire que 85% des victimes enfantines de création de fichiers pédopornographiques ou d'agression sont les victimes de proches, eh bien... je le dis presque de façon provocatrice, mais je trouve que le film illustre cette citation plus qu'il ne propose quelque chose au-delà du simple niveau illustratif.
On reparlera de Fjord, je pense, mais pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Enfin, en fait, je trouve que c'est, quand bien même c'est les mêmes sujets, c'est la cellule familiale, c'est les questions de violence faites aux enfants, Fjord ne montre. Enfin, les parents dans Fjord ne se déplacent absolument pas en termes de regard. Alors que justement, là, dans Gentle Monster, c'est justement tout le chemin de la mère qui doit justement changer de regard vis-à-vis de son mec qui est aussi le père de son gosse. Et donc pour moi, le film fait pas du tout la même chose en fait. Et je sais plus exactement quels sont les termes que tu as utilisés pour en parler, mais. Enfin, en termes d'ambiguïté, etc., pour moi, c'est pas la même donc, enfin, qui est créée. Enfin, je sais pas comment plus expliquer que ça, la différence, mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça que le film est un peu plus fragile, alors que Fjord, au contraire, il y a quelque chose de beaucoup plus tenu, ouais, parce que ces personnages ne bougent pas, et c'est au spectateur de se poser la question et de faire ce déplacement, alors que là, le déplacement, il est fait par le personnage, et c'est la caméra qui veut juste nous montrer. Et donc, peut-être un peu l'exemplifier, ça, je vois ce que tu veux dire. Et...
Je te rejoins aussi. Et après, en fait, enfin, en gros, je suis pas d'accord avec deux trucs que tu as dit. D'abord, je suis pas d'accord avec la comparaison avec Fjord. Pour moi, sur ce sujet, je trouve qu'elle se tient pas. Dans la mesure où, ok, ça parle de violence contre des enfants, mais en fait, les degrés sont tellement différents. Et surtout, l'approche est tellement différente. Dans le sens où Mungyu, il a une approche beaucoup plus large. Enfin, on y reviendra en temps et en heure. Et presque sociologique en fait, là où Marie Kreutzer en fait je trouve, enfin en fait je pense qu'il y a vraiment une dimension quasi horrifique qui est logée quelque part dans la conception du film, voire dans le film même souterrainement, parce qu'en fait c'est con mais dès le début du film et c'est tout le travail d'écriture du personnage de Léa Seydoux, c'est quelque chose qui est vécu comme un impensable en fait, c'est littéralement c'est aussi pour ça que le personnage met autant de temps à l'accepter. Pardon, c'est qu'il y a de la musique en fond. C'est que, en fait, elle n'arrive pas à y croire. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième désaccord, c'est avec ce que tu as dit sur la citation de fin du film. En fait, je trouve que le film fait tout sauf exemplifier cette citation. Justement, il s'en sert pour venir gratter les images que pointe du doigt cette citation. Les images, c'est lesquelles ? C'est celle du noyau familial qui est censé être safe et qui est censé être protecteur. Le film, il part de cette, même s'il se clôt dessus, on va dire qu'il part de cette citation-là, au moins dans sa conception, pour aller gratter ces images-là, mais littéralement, et en gros, aller les... dans sa mise en scène, en fait, aller les... en montrer tout le côté malsain, tout le côté dérangeant. C'est là que le choix du point de vue de Léa Seydoux, je trouve, est un choix parfait, en fait. C'est que tu peux pas prendre le point de vue du gosse, parce qu'en fait, pour moi, ça se tient pas de prétendre... avoir le point de vue d'un gosse dans une situation comme ça, surtout quand en fait t'as pas toutes les clés de ce qui s'est passé, ça me paraît trop compliqué de tenir le point de vue du père pour tout un tas de raisons, mais ne serait-ce que pour en fait des risques de complaisance, et je pense que de toute façon c'est pas ce qui intéresse Marie Kreutzer. Du coup reste le point de vue de Léa Seydoux, et je trouve qu'en fait ce point de vue il va complètement avec cette idée de gratter l'image du noyau familial. Parce que qu'est-ce qu'Aville est assez doux en découvrant cet impensable progressivement dans le film, c'est qu'en fait, c'est littéralement son univers de signes autour d'elle qui s'effondre. Et en fait, si le personnage est bouleversé et commence à faire n'importe quoi, c'est aussi parce que d'un coup, plus rien n'a de sens autour d'elle, elle n'a plus aucun repère à cause, entre guillemets, juste de cette nouvelle, de cette information, de la potentialité de cette de cet événement, de cet acte. Et je trouve que voilà, cette manière de, en gros, faire s'effondrer un monde de signes pour dire que, bah, en fait, oui, derrière l'image du noyau familial, il y a potentiellement ça. Je trouve que c'est quelque chose que le film fait très très bien, ou en tout cas, même s'il a beaucoup de maladresse à d'autres endroits dans son écriture, etc. Disons que l'idée qu'a le film et les trucs qu'il essaye avec, je trouve que c'est très pertinent.
Ouais, mais là, je trouve que du coup, vous vous retrouvez à défendre quand même beaucoup le film sur une idée et le problème sur lequel point de vue de la mère. Et je trouve qu'en fait, elle est noyée. Moi, c'est ça le souci, c'est qu'elle est noyée dans tout un tas d'autres. C'est qu'elle est noyée dans l'arc narratif de la policière avec son père qui a Alzheimer et qui est aussi, enfin, agresse plus ou moins. Agresse sexuellement l'infirmière à domicile qui est censée l'aider. Donc on a ça. On a effectivement quand même des incursions de points de vue qui n'ont pas de sens vers le père, vers l'avocat aussi. Donc en fait, le problème, c'est que voilà, moi je trouve qu'elle n'arrive pas à tenir cette note. Et je trouve que la comparaison avec Fjord se tient parce que précisément, tu dis c'est des approches tout à fait différentes. Bah ouais, c'est ça, c'est le point de vue, c'est ça que je voulais dire dans ma comparaison. C'est que je suis pas très intéressé par l'approche de Kreutzer qui, bah, je trouve, aurait peut-être effectivement mieux fait d'aller à fond dans une des intuitions qu'elle développe, qu'elle explore, et que pour certaines elle explore très bien. Finalement, l'épouvante, tu disais, je reviens sur ce que je disais, je pense que ça se tient assez, ne serait-ce que avec le titre du film Gentle Monster, donc cette idée du monstre, et qui est la personnalité monstrueuse du père sur internet, puisque c'est son pseudo sur ce forum de pédopervers. Bon, le problème, c'est que bah, ça, on l'a pas trop non plus, et que je pense que voilà, l'approche qu'a Fjord, et on en reparlera quand on parlera de Fjord, des violences intrafamiliales qui sont tout à fait différentes, bien sûr, m'intéresse plus, moi, subjectivement, que la multiplicité d'approches, pour certaines, je vous rejoins tout à fait, vous l'avez dit, très intéressante, qu'il y a chez Mary Kreutzer. Et voilà, c'est tout pour Gentle Monster. On va passer à présent, je vous tends le micro à tous les deux puisque vous allez parler d'un film que je n'ai pas vu. On va passer à Mémoire de fille de Judith Godrèche, que vous avez aussi vu dans la salle de Bussy, cette fois-ci néanmoins en présence de toute l'équipe du film.
Oui, on a pu découvrir le film en première mondiale, donc en présence de l'équipe du film. Et donc, du coup, on quitte la compétition officielle pour s'aventurer sur les territoires de la sélection Un Certain Regard, qui est une sélection... Enfin, ça fait toujours partie de la sélection officielle, elle n'est pas totalement parallèle, mais qui est déjà plus indépendante, plus consacrée aussi au premier film, et qui, du coup, a tout de suite une forme d'ouverture vers plus d'originalité. Là, en l'occurrence, c'est un film de Judith Godrèche, c'est pas son premier, c'est une adaptation d'un texte d'Annie Ernaux aussi. Donc, bon, moi, j'avoue que j'y allais sans trop d'attente, sans trop savoir non plus ce sur quoi j'allais tomber. Moi, j'avais pas lu le bouquin, je crois que toi, tu l'avais lu, Claire. J'avoue que le film se tient, j'ai pas passé un mauvais moment. Après, voilà, c'est assez oubliable. Je trouve que... Enfin, j'ai du mal à comprendre, en fait, ce que raconte le film au-delà du livre, ce qui tire du livre. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est assez pauvre, même s'il y a quelques idées. En fait, le film tourne vite en boucle dessus. Donc voilà, c'est une forme de déception, je sais pas, mais c'était pas génial, on va dire.
Oui, je suis encore une fois d'accord avec toi, Aubry. Enfin, en fait, moi, j'ai été déçue pour le coup. Enfin, en fait, du moins, j'y allais un peu à reculons. En fait, j'y allais par curiosité, mais j'avais très peur parce que donc j'avais lu le livre, et que je voyais pas comment il pouvait être correctement adapté. Je trouve ça très délicat d'adapter comme ça un témoignage d'Annie Ernaux qui est un témoignage très connu en plus de ça, qui date des années 50. Et donc ça fait... Enfin, c'est con à dire, mais ça fait longtemps et il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce sujet en termes d'évolution, de progression, quand bien même tout n'est pas fait. Mais du coup, repartir comme ça dans le passé, je trouve ça assez étonnant. Et puis en fait c'est le livre en image, en fait, enfin il y a pas l'apport que j'aurais aimé voir Il n'y a pas le... Ouais, le petit truc en plus qui fait que, bah, en fait, juste autant qu'on lise directement ce qu'Annie Ernaux a envie d'écrire, d'autant plus qu'elle l'écrit très bien. Et là, le film garde cette narration. Donc, de la Annie Ernaux, je crois qu'elle écrit ça quand elle a 40-50 ans. J'ai peur de dire des conneries, mais je crois que c'est ça. Donc, on a comme ça ce personnage qui est joué par Valérie Dréville. Annie Ernaux vieille, donc en plus, bon voilà, ça moi personnellement j'ai pas trop aimé, mais passons. Elle fait l'introduction, elle fait la conclusion, et au milieu on a ce truc qui est assez délicat, et en fait je pense qu'il est très très sincère, et c'était ça qui était beau lors de la séance, c'est que toute l'équipe était là, que tu sentais que c'était un film qui avait énormément d'importance pour son message, mais aussi pour, je pense, le geste qu'est un film... Enfin voilà, après tout ce qui s'est passé, tout... mais c'est pas convaincant, et c'est pas convaincant et dans la forme et dans le fond, malheureusement, je trouve.
Effectivement, en fait, on sent bien toutes les intentions, mais qu'en fait le résultat est à la fois assez linéaire, plat et classique, on va dire, dans le sens où, comme tu dis, c'est vraiment une mise en image assez lourde par moment, du récit. En fait, c'est bête à dire, mais en fait, je trouve que même sans avoir lu le livre, on sent les traces du récit derrière et que le film en lui-même a du mal à s'en émanciper. Je mettrais dans les événements qui sont racontés dans le film et dans le livre, on est d'accord que Annie Ernaux, elle qualifie pas ça de viol. Voilà. Et du coup, je trouve que, à la rigueur, c'est ce que vient apporter la mise en scène de Godrèche à cet endroit-là, un peu. C'est dans la manière, en gros, qu'elle a de filmer ces scènes de... de sexe entre adolescents, jeunes adultes, dans un camp de moniteurs. C'est, pour le coup, je trouve qu'elle filme vraiment ça comme des scènes de violence et de viol. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, en gros, elle trouve une idée pour représenter ça, en l'occurrence filmer une ampoule. Si ça marche vraiment plutôt bien la première fois, en fait, je trouve que ça s'essouffle assez vite, comme le film de façon générale. Et pareil, dans ce qu'on disait sur le côté mettre en image un bouquin, en fait, la tentation de l'adaptation à cet endroit-là, c'est aussi de vouloir adapter toutes les pages du bouquin. Et de la même manière, je crois qu'on est aussi d'accord sur la fin du film, la dernière partie, qui en gros se passe un peu plus tard lorsque le personnage d'Annie est au lycée à Rouen. Et en fait, j'ai du mal à comprendre à quoi sert en fait cette partie-là, pour le coup, dans l'économie du film et dans ce qu'essaye de raconter le film par rapport au livre. On a juste la sensation d'un truc, d'une case cochée en plus, parce que c'était dans le bouquin qu'il fallait l'adapter. Sauf qu'en fait, ça alourdit pas mal le film en termes de rythme et de durée. Donc voilà, c'est quand même, ouais, c'est quand même pas génial, pas très réussi sur plein de points, même si en vrai ça marche un peu quand même, et si effectivement, du coup, pour le coup, les intentions sont là, quoi.
Oui, tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais sur la question du viol, enfin le fait de dire que c'est un viol, en fait, moi, le livre, enfin ce pourquoi j'aime beaucoup ce livre, c'est parce que il y a ce travail de la double narration, et que là, Annie Ernaux adulte, justement, porte ce regard beaucoup plus analytique, disons, sur son expérience personnelle. Et c'est dans ce dialogue, finalement, entre les deux, qu'on a la qualification de ce moment-là, qui était un moment hyper banal pour l'époque. Et en fait, c'est triste à dire, mais c'est vraiment comme ça qu'elle en parle. Et le film, en fait, a un peu la... mais c'est... Enfin, moi, je trouve ça hyper mignon, mais... a du mal à faire ça, en fait. A du mal à oublier le contemporain, à oublier que, oui, c'est un viol, et du coup a du mal à rendre le truc complètement banal, s'en détache pas, et enfin ouais, ça donne un espèce de mélange très bizarre où on sait qu'on est dans les années 50 et en même temps il y a vraiment la patte du contemporain qui est présente sans aucune raison, en fait. Et ça, moi, ça m'a un peu gênée, enfin même carrément gênée. Et puis ouais, pour revenir juste rapidement sur la narration, le livre pose aussi beaucoup de questions en termes de forme. Notamment sur la fin, parce que Annie Ernaux, après avoir écrit ça, qui est vraiment presque sur la forme de confession, elle termine en disant qu'elle aurait pu l'écrire de plein d'autres façons, de façon complètement différente, et que là elle l'a fait pas mal je sais pas, c'est un format un peu agenda, un peu plus sur les faits, mais qu'elle aurait pu le faire avec des détails, etc. Et que justement, le film peut apporter ces détails-là, puisqu'on les voit et qu'on n'a pas besoin de les dire. Et là, bizarrement, le film fait aussi cette précision, c'est-à-dire que ça se clôture avec Valérie Dréville qui dit « Ah oui, j'aurais pu aussi parler des détails », sauf que les détails, on les a vus, puisqu'on a vu l'ampoule en grand plusieurs fois. Et je comprends pas pourquoi ça se termine comme ça, et ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais c'est une belle esquisse.
Qui manque l'ambiguïté de Gentle Monster. Surtout qu'il y a matière à le faire, parce que il y a un endroit du film où je trouve que ça fonctionne bien, c'est qu'elle filme vraiment ça comme un teen movie, et c'est plutôt réussi pour le coup. Même le côté un peu cauchemardesque de il y a une routine qui se développe, en soi ça marche plutôt bien, et en fait c'est pour ça que le film même se tient bien au visionnage et que c'est vraiment pas non plus désagréable. Mais c'est qu'en fait au-delà de ça, effectivement, je trouve que ça manque clairement d'idées pour aller plus loin qu'une mise en image du texte, le tout vraiment symbolisé par cette dernière scène dont t'as parlé, Claire. Moi je reviens sur ma lubie des espaces, mais quand t'as un film qui se passe dans un lieu clos comme ça, d'une espèce de grande pension-école, je trouve qu'il y a tellement de trucs à faire, là pareil sur la perversion d'espaces familiers et tout, et ou même juste le fait qu'ils deviennent étrangement banals en fait. Ce que fait pas trop le film, il se contente de faire en gros le factuel, c'est-à-dire de filmer ce que raconte le livre, on s'en rend compte assez vite. Donc bon, effectivement c'est décevant, mais c'est pas non plus de quoi s'énerver, quoi.
Belle conclusion pour ce nouvel épisode du comptoir du festival. Restez évidemment branchés à l'écoute de Transistor pour tous les épisodes qui vont continuer à sortir. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et merci infiniment à Smila, Élise et Corentin qui nous ont permis on peut les applaudir, qui nous ont permis en tout cas de venir à Cannes et de réaliser toute cette suite d'épisodes. Vive le cinéma, vive Cannes et vive Transistor.